avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on vraiment déconnecter ? Pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, mais dans notre vie. Nous consultons notre téléphone près de 2716 fois par jour, soit près de 2 fois par minute. 5 heures par jour en moyenne devant les écrans, hors temps de travail pour ce qui est de la France. Alors, est-il encore possible de se déconnecter dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle ? Pas de doute, en tout cas, vous avez conscience du problème, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde. Vous avez posté de très nombreux messages. Comment organiser une déconnexion partielle ? Peut-être qu'il faut réduire nos ambitions. Des entreprises se dotent maintenant de chartes du droit à la déconnexion. Est-ce que c'est une bonne piste ? On vous propose en tout cas d'en discuter avec nos invités. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Thibault Liorade.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chef de la rubrique économie à The Conversation, qui est un média en ligne à partir d'articles de chercheurs. Et c'est vrai que sur un tel sujet, on a tous un point de vue sur la déconnexion. C'est pas mal d'aller au-delà de nos impressions, et vous publiez régulièrement des articles sur ce sujet.
Tout à fait, c'est un sujet qui interpelle les chercheurs, puisque c'est, comme vous l'avez dit, un sujet qui concerne tout le monde et qui est particulièrement important aujourd'hui dans les entreprises.
Et puis qui concerne plein de disciplines différentes, la sociologie, la psychologie, le management, qui touche les sphères de l'économie, des problèmes de société, de famille, etc.
Et puis de santé également.
Exactement.
Puisque on sait que une des conséquences un petit peu extrême de ce qu'on appelle la cyberaddiction aujourd'hui, ce sont la dépression, ce sont des phénomènes comme ça qui entraînent du mal-être.
Ouais. Alors on ne va pas aller nous jusqu'aux vraies pathologies, hein, puisque ça c'est réservé à l'émission Priorité Santé, mais vraiment sur les problèmes de société. Avec nous Dominique Boulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à Sciences Po Paris, vous avez publié Sociologie du numérique chez Armand Collin, et vous êtes déjà bien connecté sur votre smartphone pendant qu'on commence l'émission. On sera également en ligne avec Ager Kefi, professeur. On est en ligne déjà avec Ager Kefi. Bonjour Ager Kefi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de gestion à Paris School of Business et vous avez réalisé une étude sur l'hyperconnexion des cadres. Et puis vous enseignez aussi à l'Université nationale de Singapour. Vous avez travaillé sur le cas de Taïwan, je crois aussi. Également en ligne avec nous, Laurent Salard. Bonjour. Est-ce que Laurent Salard nous entend ? Laurent Salard, on l'avait au téléphone, on est en train de la rechercher du fait des grèves. C'est vrai que tout le monde n'est pas dans le studio de RFI à Paris. Elle est à l'Université de Lille et elle est cofondatrice d'un groupe de recherche mobile et création, spécialiste de l'usage juvénile du smartphone. Et elle a publié Mobile, enjeux esthétiques et artistiques aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, vous avez la parole. N'attendez pas la fin de l'émission pour vous déconnecter et fermer votre WhatsApp, parce que vous pouvez nous appeler gratuitement au 33 1 84 22 71 71, postez des messages et puis bien sûr appelez sur le fixe, c'est le même numéro et on a envie d'en discuter en direct avec vous. 33 1 84 22 71 71. On a reçu beaucoup de messages sur ce sujet. Aristide est à Lomé au Togo et il commence par poser la question « Pour quelle bonne raison devrais-je me déconnecter ? Je n'écoute RFI que par Internet. Et comment aurais-je même su qu'on parlait de déconnexion sans être connecté ?» Bah oui, c'est une bonne question. Godson est au Bénin. « Si je ne me connecte pas chaque jour, ça me rend inquiet. » J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Je passe presque une demi-journée connectée par jour. Marie-Noéline est à Libreville au Gabon. Actuellement sans activité, je passe mon temps sur mon téléphone quand je ne suis pas endormie. C'est le seul moyen pour moi de ne pas péter les plombs qui me restent. Les quelques plombs qui me restent, nous dit Marie-Noéline. Elle n'a pas l'air d'avoir le moral. Brice est à Yaoundé au Cameroun. Moi, je reste connectée jusqu'à 3h du matin. Je reçois des messages incessants de mes amis du monde entier. Je me fixe des règles pour réduire mon temps d'écran, mais je ne m'y tiens jamais. Abraham est à Bamako, au Mali. Nous ressemblons aux poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans. J'anime un club de la paix à Bamako. Nous faisons la promotion du développement personnel, le contrôle de l'attention, autrement dit, l'or invisible. Oui, tout le monde a bien conscience, hein, effectivement, du problème aujourd'hui. Et on accueille un auditeur au 33 1 84 22 71 71. Oumar est à N'Djamena au Tchad. Bonjour Oumar. On l'a pas encore, non, et on va l'avoir, mais décidément. Je vais vous lire le message de Lamar à Nouadhibou, en Mauritanie. Qui nous dit qu'il confisque le téléphone portable de ses petits frères et sœurs, il leur coupe le wifi pendant la semaine, il se connecte uniquement le week-end, il boude, il refuse parfois de manger. Je me demande si c'est une bonne idée de confisquer leur smartphone, nous dit Lamar. Moi, je répondrais à Lamar, c'est vous qui voyez. Le week-end dernier en France, dans un village de l'Aveyron, une adolescente de 13 ans a poignardé ses parents parce qu'ils lui avaient confisqué son téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez vu ce fait divers.
Non, je dois dire que non.
Thibault lui aura... Ah, comment ça ? Vous n'êtes pas suffisamment connecté. En tout cas, les parents sont tous les deux hospitalisés. C'est grave. Et bien sûr, vous nous téléphonez au 33 1 84 22 71 71. Laurence Allard, on vous a retrouvé. Vous êtes bien en ligne avec nous, Laurence Allard.
Oui, tout à fait.
Je vous présente. Voilà, je vous présentais tout à l'heure, Laurence Allard. Vous êtes à l'université de Lille et vous avez publié un livre sur mobile, enjeux esthétiques et artistiques. Vous travaillez beaucoup sur la question des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fait divers de cette adolescente? Vous avez beaucoup travaillé sur les ados qui poignardent ses parents parce que elle pète les plombs, comme disait une auditrice, parce qu'elle n'a plus son téléphone portable.
Oui, ça fait partie des faits divers que l'on met en avant, mais toutes les pratiques des mobiles sont pas, et des téléphones smartphones sont pas aussi excessives. Hein, donc il y a des régulations individuelles et collectives qui sont à trouver et qui se trouvent. Mais de fait, ça illustre la façon dont la société aujourd'hui est totalement numérisée et qu'il est difficile d'avoir une quelconque activité hors de la connexion, et que ça fait partie aujourd'hui chez les plus jeunes notamment d'un des besoins fondamentaux que d'être connecté. Voilà.
Alors, besoin ou droit fondamental, c'est toute la question hein, d'ailleurs. On va passer la parole à cet auditeur qui cherchait à nous joindre. Oumar est à N'Djamena au Tchad. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Oumar, je ne sais pas si vous avez entendu, je racontais cette adolescente de 13 ans à qui on a confisqué son téléphone portable dans un petit village en France et qui a porté des coups de couteau à ses parents en signe de protestation. Vous nous avez dit que vous êtes accro à vos écrans, Oumar.
Oui, j'ai entendu l'histoire des espérants, mais... Pour moi, ça sera presque cool, même si je n'ose pas dire ça. Moi, je passe en moyenne 18 heures du temps devant l'écran.
18 heures devant votre écran. Donc, si on calcule bien...
Oui, c'est le temps moyen même.
Donc, il reste 6 heures de sommeil.
Oui, oui.
Et donc, ça veut dire que vous prenez vos repas devant un écran?
D'ailleurs, l'écran est avec moi-même, même au lit quand je dors. Mon ordi portable est toujours avec moi, à côté de moi sur mon
sol. Vous dormez avec l'ordinateur portable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Oumar?
Bon, pendant la journée, je suis technicien en infographie.
Infographiste, oui.
Oui, infographiste. Et pendant la nuit, je suis développeur web et mobile.
Donc, vous vous servez vraiment de votre ordinateur pour travailler, hein?
Oui, je travaille l'ordinateur, le téléphone. Tout à côté de moi.
18 heures par jour.
18 heures par jour, ça c'est, si on peut dire, le peu du temps que j'ai fait.
Ouais.
Des fois, il m'arrive même d'aller 20 heures, des fois même passer toutes les 24 heures.
Parfois même 24 heures. Quel regard vous portez sur cette hyperconnexion, Oumar? Vous vous dites quoi finalement? Il faut que ça s'arrête ou pas?
Bon, pour moi, c'est devenu comme... L'ordinateur et le téléphone, comme si c'était mon meilleur ami. Je ne sais pas si je suis sûr de l'abandonner, mais je vois que c'est un accès vraiment, c'est beaucoup, beaucoup.
Ouais. C'est un accès au travail déjà pour vous. Merci Oumar en tout cas de nous avoir appelé. Des cas comme ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup sur le continent africain. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Alors je vais vous poser la question à vous tous, Thibault Liora, Dominique Boulier, Ager Kefi et Laurence Allard. Comment, jusqu'à il y a peu de temps, on évaluait surtout les conséquences positives de l'Internet, c'est-à-dire l'accès à l'information, l'ouverture sur le monde, l'éducation, la possibilité de s'élever. Comment on en est arrivé là finalement, sans même s'en rendre compte, Thibault Liorade?
Alors, Pour moi, c'est particulièrement bien révélé par les témoignages qu'on a eus et ce terrible fait divers que vous avez rappelé. C'est tout simplement qu'on est dans des comportements qui relèvent de l'addiction. Le fait divers, on pourrait imaginer que c'est un drogué qui simplement n'a pas eu sa dose et qui a complètement pété un câble, excusez-moi de l'expression, parce qu'il était en manque. Et pour bien comprendre ce phénomène d'addiction, il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est confronté à ces outils numériques. Il y a une étude de plusieurs psychologues de UCLA aux États-Unis qui explique que lorsqu'on découvre un contenu digne d'intérêt sur les réseaux sociaux, la première région du cerveau qui s'active, c'est celle qui nous pousse à échanger avec nos semblables. C'est-à-dire que notre réaction inconsciente, c'est tout simplement de se demander si ça va pas intéresser d'autres personnes. Et d'ailleurs, Facebook l'a très très bien compris avec sa fonctionnalité du share. Ensuite, la deuxième réaction qui vient ensuite, c'est quand on a partagé, très simplement, on est en attente de likes, de commentaires, de réactions. Et en fait, ces likes, ils vont déclencher le circuit de la récompense dans le cerveau. Ils vont simplement libérer les neurotransmetteurs qui vont être responsables du bien-être et du sentiment de bonheur dans le cerveau.
Le partage, donc, et le like, le bravo, finalement. Vous partagez ce point de vue, Dominique Boulier ?
Oui, avec cette nuance peut-être que il est surtout important de noter comment justement les plateformes ont été elles-mêmes configurées pour développer ça. Donc ces ressorts psychologiques qu'on peut considérer comme généraux et valides en toute généralité, en réalité, ont été vraiment au cœur même du business model, du modèle économique de ces entreprises. Et de fait, quand on dit, par exemple, le bouton retweet qui est inventé en 2011, si vous voulez, c'est un vecteur extraordinaire de réactivité. Donc on se met en posture de ne pas sélectionner ou hiérarchiser l'information, etc., mais précisément de renvoyer quelque chose sans mesurer les conséquences. Parce que c'est-à-dire que c'est nous qui alimentons ce qu'on appelle quelquefois l'infobésité, mais surtout un rythme présent. Ça, j'insiste là-dessus. L'auditeur, y compris, mentionnait le fait qu'il est là très longtemps, 18 heures, mais il y est aussi pour son travail.
Il peut essentiellement, là.
Essentiellement, voilà. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que pendant son travail, il est concentré sur son activité ou en réalité, il a plusieurs autres activités, ce qu'on appelle la multi-activité. Et cette multi-activité-là, elle est basée sur des notifications, des alertes, sur un rythme qui casse d'autres types d'attention. Vous voyez, c'est ça le problème qui devient un enjeu pour la concentration au travail et puis aussi pour le débat public, la vie collective, etc. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt interrompu. Et je ne dis pas qu'on n'aime pas ça. C'est ça le problème. Comme vous le dites très bien, il y a effectivement de la récompense. Il y a effectivement le sentiment d'exister, de participer à une vie active, intense, de réagir et d'être en prise. Mais il y a un effet, clairement, de disqualification des autres types d'attention.
Ager Kefi, c'est l'incitation permanente à la réactivité ?
Exactement. Et en fait, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a bien été dit tout à l'heure. Alors, on appelle ça les mécanismes de l'ingénierie de l'attention. Et donc, il y a des ingénieurs qui travaillent sur cette mise en place de boutons afin d'aller dans le sens des activités qui sont plus prisées et qui vont dans le sens d'un développement, d'un sentiment de dépendance qui, je le rappelle, a été mesurée par des échelles en fait, de mesure de la dépendance développées notamment par une cyberpsychologue qui s'appelle Young, en fait, fin des années 90, début des années 2000, et qui a mis en place des critères qui sont par exemple la préoccupation, l'augmentation du seuil de tolérance, qui signifie qu'on a besoin de plus de temps afin d'avoir le même niveau de satisfaction, entre parenthèses, le conflit avec d'autres activités, notamment liées à sa vie sociale normale, la volonté de retrait, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'arrêter, l'incapacité à lutter, et puis l'irritabilité, l'anxiété, toutes sortes de critères qui rappellent en fait la dépendance à des substances, puisque là on est à des formes de dépendance sans substance.
Souleymane, qui a 20 ans, qui est étudiant à N'Djamena au Tchad, nous poste ce message. J'utilise trop mon téléphone, même en classe si j'ai du crédit, et souvent je ne retiens pas ce que dit le prof. Laurence Allard, il y a un vrai phénomène chez les jeunes de déficit de l'attention?
C'est-à-dire sur ces problématiques, il n'y a que des psycho-cogniticiens qui sont convoqués comme pour élucider un petit peu et questionner et puis diagnostiquer en fait ce type de pratique. Et ce qui est logique, puisque comme l'a dit Dominique Boulier, en effet, l'ingénierie de l'attention est totalement sous la domination du neuromarketing. Et donc, c'est non pas des individus que l'on s'adresse, mais des cerveaux, en fait. Mmh.
Le neuromarketing, attendez, est-ce qu'on peut expliquer, là, en quelques mots, ce que c'est le neuromarketing ? Dominique Boulier, vous en avez dit un mot, on peut bien réexpliquer ce que c'est ?
Alors, le principe, c'est de ne pas viser forcément seulement des individus, mais de viser des micro-comportements que l'on est capable de susciter de façon à générer ce qu'on appelle de l'engagement hein, sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, de récupérer un certain nombre de données sur des traces de comportements qui vont nous permettre de mieux comprendre et d'anticiper la façon dont on peut placer des publicités. Puisque dans votre fil Facebook, par exemple, vous vous retrouvez avec des publicités de placer, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont apparemment extrêmement ciblées. En réalité, je peux vous dire que du point de vue du résultat, en termes d'effet sur les achats, etc., c'est très faible. Mais ça suffit à convaincre les marques qu'il faut y être. Et ça génère un revenu considérable pour ces entreprises. Donc il y a un effet auto-démonstrateur, si vous voulez, où les marques se convainquent qu'il faut le faire. Mais en attendant, ça a un effet sur nos propres comportements parce que tous nos micro-comportements, c'est-à-dire un like ou bien un temps présent sur une page ou un clic quelque part, devient une richesse, une valeur qui peut être commercialisée et donc qu'on va susciter, qu'on va développer à partir de là. Donc on a fait, moi j'ai créé des user labs.
Donc les marques annonceuses sont elles-mêmes victimes du neuromarketing, des plateformes.
Je pense qu'au bout du compte, elles s'auto-entretiennent dans cette idée qu'il faut rester connecté et il faut surtout, parce qu'au bout du compte, les bilans en termes de chiffre d'affaires sont très difficiles à démontrer d'une part et très faibles quand c'est le cas.
Est-ce que cette hyperconnexion dont on parle, ça touche toutes les catégories sociales, Dominique Boulier ?
Bien, écoutez, il y a peu de...
C'est quasiment... Tant est qu'on soit connecté, bien sûr.
Voilà, évidemment. Donc, ça, une fois que vous avez cet a priori-là, de fait, on voit bien que c'est un renforcement social. Hein. Donc, c'est collectif. Hein. Quand vous évoquez les jeunes, par exemple, et l'enjeu pour eux, c'est l'équivalent de la famille qui interdit à l'enfant d'utiliser son téléphone portable. C'est comme si on lui interdisait de voir son groupe de pères. Or, s'il y a quelque chose d'essentiel à l'adolescence, c'est effectivement ce groupe de pères pour expérimenter, pour se tester, etc. Donc, tous les âges sont à peu près concernés, pour des raisons différentes. Certains, parce qu'ils sont justement dans cette logique de groupe de pairs. D'autres, parce que c'est de la reconnaissance sociale, de la visibilité professionnelle qu'il faut en permanence avoir. D'autres, parce que professionnellement...
Une existence, finalement.
Oui, c'est ça. C'est se sentir exister. Hein. Donc, c'est ça qu'on a derrière les gens aussi qui disaient dans vos auditeurs, les témoignages, vous mentionnez des gens qui disaient, finalement, on appelle ça en anglais le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. C'est quelque chose qui s'est diffusé, mais professionnellement aussi. Et ça, peut-être que The Conversation a eu des articles de ce type-là plus intéressants et plus ciblés là-dessus parce que c'est un vrai problème. La pression est telle du point de vue du management que vous êtes amené à être vigilant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc cet état d'alerte, ce que j'appelle moi un état d'alerte mentale, il s'est diffusé à peu près partout et dans tous les milieux et de façon étonnante, quelquefois sur des familles les plus ordinaires comme à des professionnels de l'information qui évidemment, on se dit c'est normal pour eux, mais le problème c'est est-ce que c'est normal à ce seuil et à ce rythme ?
L'hyperconnexion est et l'aspect professionnel et la performance professionnelle, on va en reparler, mais vos appels arrivent bien sûr nombreux et vos messages aussi au 33 1 84 22 71 71. On accueille un enseignant, Michel, qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, vous êtes professeur de philosophie et vous avez comme un petit problème avec vos élèves.
Effectivement.
Allez-y Michel, vous êtes en direct.
Oui, donc je disais que l'utilisation du téléphone, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui, malgré les règlements intérieurs, malgré le grand travail que font les surveillants. Et bon, nous aussi, nous les accompagnons dans ce travail-là. Malheureusement, les enfants, ils font de tout usage, ils prennent toutes les aptitudes possibles pour utiliser le téléphone en plein cours.
Le téléphone est interdit dans votre lycée ou pas, Michel, à Pointe-Noire ?
Dans tous les établissements au Congo-Brazzaville, l'utilisation du téléphone est formellement interdite pendant le cours, oui, en classe, pendant le cours et pendant les examens. Alors là, on fait intervenir la police. Sinon, c'est la tricherie à grande échelle.
Oui.
C'est la tricherie.
Bon, mais alors, vous, quand vos élèves utilisent le téléphone dans leur classe, c'est interdit, qu'est-ce que vous faites ? Vous confisquez le téléphone ?
Oui, je vous ai dit, madame. Alors, il faut de la tolérance. La tolérance, parce que il faut que les enfants suivent le cours. c'est des écoles privées, parfois même publiques, il faut qu'ils suivent. On est content de faire preuve de tolérance, leur dire mettez-les sous vibreur et si jamais ça sonne, ne répondez pas en classe, allez répondre dehors. Mais déjà à l'entrée de l'établissement, ils sont systématiquement fouillés tous les jours, mais ils ont, j'ai dit, toutes les astuces possibles pour les dissimuler et les amener en classe.
Et les parents, et les parents, ils disent quoi, Michel ?
Oui, il y a des parents qui interdisent. Moi, par exemple, je n'admets pas, dès que ma fille va à l'école, elle est au lycée, je dis, tu laisses le téléphone sur mon bureau, donc à la maison. Je suis rassuré qu'elle n'a pas amené le téléphone, mais elle peut utiliser le téléphone d'une amie, d'un collègue, etc. Vous voyez ? Donc, il y en a même qui en ont deux, trois. Vous lui avez acheté un téléphone, elle a la possibilité, parce que vous lui donnez comme argent de poche.
Donc, vous voulez dire que les parents sont finalement dépassés, malgré l'interdiction dans l'établissement scolaire ?
Oui. Donc, elle peut en acheter à votre insu. Même les sociétés de téléphonie mobile nous accompagnent. Elles exigent.
Vous avez dit au Standard, Michel, que parfois vous avez les parents sur le dos qui viennent se plaindre si vous interdisez le téléphone, si vous respectez l'interdiction du règlement intérieur.
Je devais l'amener à l'hôpital, mais comment je devais l'appeler ? Je dis, mais vous appelez l'école à un numéro. Vous appelez l'école, on va appeler l'enfant en classe. Et on le fait sortir, vous venez, on l'appelle, il dit non, vous n'avez pas intervenu sur la vie de mon enfant, il doit utiliser son téléphone. Vous voyez donc que les parents, c'est toute la société, c'est difficile à gérer, oui. Il faut beaucoup de tolérance, sinon alors, les enfants, ils sont sur vous, ils sont sur votre dos, ils sont sur vos mains, ils sont sur vous.
Eh bien, on a bien compris, ça ne doit pas être facile d'être professeur de philo dans ce lycée, dans les établissements scolaires à Pointe-Noire et ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup Michel de votre appel. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Nous parlons de l'hyperconnexion digital détox. Est-ce vraiment possible, envisageable? Et on parlait aussi de la question des cadres, des gens au travail finalement, puisque c'est devenu un outil indispensable dans la plupart des métiers. Agir Kefi, est-ce que vous qui avez travaillé sur les cadres et l'hyperconnexion, est-ce que quand on est dépendant, on finit par être moins productif, moins performant, puisqu'on a parlé des conséquences de l'hyperconnexion tout à l'heure, est-ce que ça pose un problème au travail ?
Alors déjà, j'aimerais rappeler quelques faits qui sont issus de notre enquête qui a visé des hauts cadres en France. Alors, on a 62% de ces cadres qui regardent leur courrier électronique et autres outils qui les relient à leur entreprise. 62% qui regardent ces outils juste avant de dormir, la nuit. Donc 26% se réveillent la nuit, en fait, pour se connecter. 69% d'entre eux, c'est ce qu'ils font en premier pratiquement le matin au réveil. Et près de 70% se connectent à la fois en week-end et quand ils sont en vacances. En fait, c'est assez parlant. Donc, on a essayé de comprendre ce qui est relié à ce phénomène de dépendance à ces outils. Et donc, on a identifié des phénomènes psychosociologiques liés aussi au travail qui sont notamment liés à ce qu'on appelle le technostress. Alors le stress, tout le monde sait ce que c'est. Le technostress, c'est une forme de mal-être qui est liée à un usage intensif ou à l'hyperconnexion en l'occurrence. Et on a aussi le phénomène de surcharge informationnelle, qu'on a trop d'informations par rapport à ce que l'on est cognitivement préparé à traiter.
Alors ce technostress, finalement, il y a le fait de recevoir un mail qui va être stressant, qui peut être agressif, qui vous pousse à réaliser une tâche plutôt que ce que vous pouvez faire. Mais il y a aussi le fait que les journées, les tâches de travail sont de plus en plus morcelées, interrompues par l'usage des nouvelles technologies.
Exactement. Alors, on a le phénomène d'interruption répétée dans les tâches effectuées. Et aussi, en fait, il y a ce qu'on appelle la techno-invasion, c'est-à-dire on a ce sentiment, cette perception de l'empiètement du travail, de la vie au travail par rapport de sa vie professionnelle par rapport à sa vie privée. Et là, on a aussi constaté qu'on n'est pas égaux, en fait, par rapport à cette techno-invasion.
Et puis aussi en fonction des générations, Thibault Liorat, parce que si on prend, il y a des schémas qui ont montré que la journée de travail d'un millennials, des jeunes générations, et puis d'un quinca, c'est pas tout à fait, il n'effectue pas les tâches de la même façon, avec la même fréquence d'interruption.
Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, on a aussi le smartphone dans l'entreprise. On parle souvent de déconnexion sur le temps privé, l'invasion de la vie professionnelle dans la vie privée, mais l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, si vous travaillez dans les entreprises, au lieu de faire une pause café, vous allez peut-être faire vos courses en ligne, vous allez peut-être répondre à des messages personnels sur Facebook, souhaiter l'anniversaire d'un proche. Et ça aussi, ça interrompt et ça dégrade la productivité, parce que c'est un autre élément qui est dans l'étude d'Agir Kefi. Elle rappelle que quand on est interrompu par une notification, pour retrouver le même temps de concentration qu'on avait avant cette interruption, il faut 3 minutes. Donc vous imaginez, mis bout à bout, toutes ces 3 minutes, ça fait un sacré temps de perdu.
Et c'est pour ça que je vous posais la question, Agir Kefi, finalement, est-ce qu'on finit par être moins productif, moins performant, à force d'être interrompu?
Alors en fait, on a des résultats qui sont mitigés, en fait. On ne peut pas dire clairement que les cadres les plus connectés sont forcément les moins performants. Bon, statistiquement parlant, il n'y a pas de corrélation claire entre dépendance et performance perçue. On a en revanche constaté un lien vraiment négatif entre surcharge informationnelle et dépendance. Et également donc l'effet direct sur la performance. Ce qu'on a compris, en fait, c'est que maintenant, cette hyperconnexion est vécue comme un mal nécessaire, c'est-à-dire, en fait, les cadres le disent clairement, ça fait partie des conditions d'exercice du métier actuellement. Et on n'ose pas, en fait, de déconnecter.
C'est ça. Ils ne souhaitent pas fondamentalement la déconnexion. Ils sont stressés. Et puis, ben voilà, ça, c'est intégré dans le travail, voire même dans l'organisation du travail. Je voudrais qu'on écoute une question d'un voisin qui a été postée sur notre numéro de téléphone et WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. Rien à voir, ça concerne la télévision, mais ça fait bien partie des écrans.
Bonjour, 7 milliards de voisins, c'est Fabrice Moussoukoulou. Je vous appelle depuis la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Grâce à la télé et à cet outil, nous vivons en direct des événements qui ont lieu à l'autre bout de la planète. Nous nous familiarisons avec la politique, l'histoire, l'actualité ou encore la culture. Mais cet outil pédagogique ne diffuse pas seulement de programmes qui sont sains et éducatifs. Il y a la violence à la télévision, mais la question que nous pouvons nous poser, c'est quels effets la consommation assidue de ce genre de programme peut avoir sur les téléspectateurs?
Alors, les effets de la violence à la télévision, c'est une vieille, vieille question, hein, depuis que la télévision est largement installée. Il faut bien comprendre que sur le continent africain, l'étude de médiamétrie montre que la télévision est très installée sur le continent africain. Le continent regarde en moyenne 3h23 par jour la télé, soit 30 minutes de plus que la moyenne mondiale. Les Malgaches regardent la télévision 4h34 par jour. Les Algériens, 3h40. Les Camerounais, 3h37, pardon. Ça fait bien partie quand même aussi de l'hyperconnexion, même si c'est pas forcément de l'Internet. Il n'y a que le Sénégal qui a une pratique quotidienne inférieure à la moyenne mondiale. On peut peut-être dire que les voisins sénégalais sont bénis parce que ça s'ajoute aux activités sur smartphone, finalement, Thibault Liorat. Est-ce qu'on a des éléments, là je vous pose la question à tous les quatre, sur depuis le temps qu'on pose cette question des liens entre les images que l'on voit, la violence, on le sait par exemple sur la sexualité, la pornographie a une incidence sur la sexualité, mais entre violence dans la société et les images violentes, est-ce qu'on a des éléments ou pas, Dominique Boulier ?
L'élément direct au sens de déclencher des comportements violents, etc., ça, à mon avis, c'est souvent totalement fantasmé, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, cette accoutumance à ce niveau et cette tolérance à l'ensemble de ces informations-là fait qu'il y a, y compris, du coup, un univers culturel qu'on se construit, mais qui est valable dans tous les pays du monde, d'ailleurs, puisque la violence, elle est partout. Et à partir de ce moment-là, on banalise un certain nombre de situations. Donc, il y a le côté, du point de vue de l'attention, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont banales. On ne réagit plus, et donc il faut toujours une catastrophe encore plus grave ou un crime encore plus grave pour qu'on attire l'attention. Parce que de l'autre côté, c'est en même temps ce qui continue à attirer l'attention, ces actes violents, notamment. C'est C'est-à-dire que là, tout ce qu'on disait sur le hachage de l'attention, sur la façon de capter un public, eh bien, il y a toujours une prime à celui qui va être choquant, violent, alors physiquement, verbalement, etc., et à la nouveauté, ou à quelque chose qui ne peut, qui vous attire malgré vous.
Et donc une surenchère.
Donc voilà, et de fait, il y a une surenchère. Quand on parle des fake news, on parle aussi de ça, si vous voulez. Alors, c'est pas forcément de la violence, etc., mais c'est le même effet. C'est-à-dire, et ça a été bien démontré, il y a un article dans Science qui l'a bien montré, c'est le score de nouveauté, et donc de choc, qui explique que les fake news se propagent. De la même façon, effectivement, vous avez toujours un crime de plus, un crime de plus en plus choquant, qui va tourner le public vers cette nouvelle-là, et à partir de là, à ce moment-là, vous captez un public, et donc il y a une prime à tous ceux qui le feront dans la concurrence pour l'attention qui est le climat dans lequel nous vivons.
Surenchère et nouveauté, Dominique Allard, c'est particulièrement vrai pour les attentes des jeunes, hein ? Laurence Allard ?
Oui, on s'apprécie beaucoup, mais de la fusionner. Non, bon, peut-être revenir un peu sur des points un peu plus fondamentaux, c'est-à-dire on fait porter là sur les outils une responsabilité sociétale peut-être un peu trop forte, puisque un outil c'est jamais qu'une médiation technique, bien sûr, hein, qui est configurante, mais qui ne va pas non plus être la de tous les problèmes. Et si il y a de la violence, s'il y a de l'attachement, de l'addiction. Du stress, du management extrêmement vertical, etc. Ça n'a rien à voir avec les outils techniques, ça n'a rien à voir avec le numérique. Donc il faut aussi interroger tout simplement les organisations, le management. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'images de manifestations en France qui sont extrêmement violentes. Mmh. Bah, les LBD, elles ne sont pas lancées par un smartphone. Mais en revanche, le smartphone permet de filmer ces violences. Et de fait, elles sont diffusées. Et il peut en effet avoir des effets d'accoutumance ou de banalisation. Mais il faut bien voir que la source du problème, il est dans la société elle-même, il n'est pas dans l'outil. Sinon, on ne va pas régler le problème, ouais. Les problèmes, justement. Si on ne s'attaque qu'aux outils, le chronomètre existait avec Taylor. Aujourd'hui, c'est le numérique dans les organisations du travail. Mais bien sûr, technique et management se sont toujours dans l'histoire rencontrés. Mais c'est d'abord le management, c'est d'abord l'organisation, c'est d'abord le travail qui est en jeu. Et
Néanmoins, beaucoup de questions quand même sur cette hyperconnexion, 7 milliards de voisins, digital détox, pourquoi, comment, jusqu'où, que font les entreprises, que font les GAFA aussi, les géants du numérique, quelle prise de conscience, vers quoi on s'oriente. Si vous nous envoyez des messages, vous postez directement à 33 1 84 22 71 71 et bien sûr aussi vous nous appelez en direct.
J'ai 152 amis sur le réseau. J'y déroule l'envers de ma vie sous un pseudo. Plat du jour, deuil, autoportrait, vue sur cours, orgueil et regret. Je ne me connais qu'un interdit, un triste répit. Le week-end sans wifi, na 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 na. Week-end sans wifi, sans ma clique, mes cœurs en couleur, les profils pour dire la douleur d'un supplice qui n'expire jamais. Sous le cyprès d'un week-end sans wifi, de guirlasse j'ai été admis incognito dans un centre addictologique d'un genre nouveau. Depuis je ne me reconnais plus, me voici enfin revenu. Ce délice qui n'agit qu'après, dans le secret, dans week-end sans wifi. Na 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 na, week-end sans wifi. J'ai le cœur qui part en spirale, mon docteur m'a dit c'est viral. Je n'aime pas ce côté mon dièse, mais ça m'apaise. Week-end sans wifi, la main. Chant du cygne
version virtuelle. Je veux mieux, n'ai plus de séquelles. J'ai les codes, l'aimes-tu la chanson?
La fibre maison.
The week-end sans wifi.
Cet été, week-end sans wifi, ben voilà une jolie proposition pour le week-end. On est presque le week-end à 24 heures près. On est avec Thibault Liorade du site d'information The Conversation, Dominique Boulier qui est sociologue, Agir Kefi qui travaille sur l'hyperconnexion des cadres et Laurence Allard notamment sur les jeunes. Je vous propose d'écouter la question d'un voisin qui a été postée sur WhatsApp. Il est au Tchad.
Bonjour à 7 milliards de voisins. Je réponds au nom d'Abdel Fattah Abdelkhadir Souen, qui a dit depuis Abéché au Tchad. Moi, je vagabondonne sur les réseaux sociaux. Effectivement, une série de scrolls sur Twitter m'informe qu'en effet, on ne parle que de dépression et de motivation aujourd'hui. Les notifications rouges de Facebook m'appellent. Je laisse une traînée de pouces levés et commentaires avant de passer sur Instagram. J'ai remarqué que je suis influencé par les réseaux sociaux, car je passe assez de mon temps à la connexion. Alors j'ai décidé volontiers de stopper un peu ce comportement en essayant d'éviter de porter mon smartphone à main 24h sur 24. J'essaie de limiter mon utilisation ou de donner quelques règles simples. Par exemple, je dois ranger mon appareil pendant mon trajet quotidien et je profite de lire des journaux ou des magazines. Sinon aussi la nuit, je laisse mon téléphone en dehors de la chambre, loin des yeux, loin du cœur pour laisser se recharger. Ainsi, je vous remercie.
Voilà, c'est un vrai programme qu'il nous propose, ce voisin, finalement, Abdel Fattah, au Tchad. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Laurence Allard que j'entends rire au téléphone?
Non, mais voilà, c'est assez intéressant parce que ça, là, on a approché la question que par la psychosociologie, que par la question du neuromarketing. Et donc, finalement, en effet, ces services sont conçus pour des cerveaux, ils sont en même temps utilisés par des individus. Et là, on voit que des individus peuvent reprendre la main et avoir justement une réflexivité et au moins voilà une prise en fait sur leur propre pratique, et qu'un individu n'est pas que simplement un cerveau avec des zones cortex central, etc.
Oui.
Et de la dopamine que l'on peut activer. Et donc, c'est le retour aussi des individus et de tous les hacks. Moi, j'appelle ça des hacks d'usage. Il n'y a pas que les hackers informaticiens. Il y a aussi les usagers qui vont hacker, braconner, détourner les propositions techniques qui sont en effet extrêmement pressantes, qui leur sont imposées aujourd'hui socialement.
Laisser parler son bon sens, c'est très présent aussi dans vos messages, les auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Yacouba, vous êtes à Abidjan, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour limiter l'hyperconnexion?
Le contrôle de son soi intérieur.
C'est-à-dire?
Voilà, parce que souvent, lorsque l'on est concentré sur le smartphone, on ne voit pas le temps passer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'humain est tellement concentré sur son smartphone qu'il perd contrôle de son intelligence.
Ça, je vous le confirme, on en a tous conscience. Mais alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, Yacouba, pour limiter ça?
La méditation, l'écriture, et essayer encore de parler aux uns et aux autres afin de me connecter en eux pour ne pas essayer de donner du temps au smartphone, à la connexion, en fait.
La méditation, donc, l'écriture, et essayer encore de parler aux uns et aux autres. Yacouba, vous avez 26 ans, vous êtes étudiant, voilà, c'est la parole de la sagesse. Et quand on dit parler, là, ça veut bien dire se parler pour de vrai, avec de vraies personnes en face de soi. Miglinta est à Port-au-Prince, en Haïti. Elle dit, moi, je me discipline, c'est une heure par jour uniquement. Est-ce que vous avez la sensation, Thibault Liorade, que l'incroyable phénomène du développement personnel, de la méditation, est clairement relié à ce ras-le-bol de l'hyperconnexion ?
Oui, bien sûr, puisque cette pleine conscience, comme on dit, permet justement de limiter les effets négatifs dont parlait votre auditeur, de justement pas voir le temps passer et de pas être vraiment en pleine conscience de ses actes et des faits de ce qui se passe autour de nous. Et je trouve tout à fait sain les propositions qui ont été faites face à ces risques d'addiction, de justement se ménager des plages horaires pour traiter ses mails ou simplement rester sur les réseaux sociaux.
Il y a beaucoup de manuels d'ailleurs, de méthodes de travail qui conseillent de ne consulter ses mails que deux fois par jour et qu'on va plus vite finalement en traitant les mails par paquet, on est plus efficace. On peut supprimer les notifications, sauf les notifications indispensables. On peut tout simplement effectivement couper le portable. Des entreprises organisent maintenant un droit à la déconnexion. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'il y a sa part de texte réglementaire, Thibault Liorade ?
Tout à fait. Alors la France est le premier pays à avoir légiféré en la matière. Le droit à la déconnexion est inscrit dans la loi depuis le 1er janvier 2017. Alors, la limite, on va dire, de ce texte, c'est qu'il n'a pas de valeur contraignante. Et en conséquence, j'ai des chiffres ici qui rappellent que simplement 16% des grandes entreprises ont instauré des mesures en faveur de ce droit à la déconnexion. Donc, on peut se demander si c'est vraiment efficace ou
avec
pas.
Avec notamment une charte, c'est ça, ou un guide. Nous, à France Média Monde, ça y est, on a reçu une charte. Guide de droit à la déconnexion, très, très clair d'ailleurs, qui dit ça concerne quels outils, à quel moment, qui propose aux managers de mettre dans leur signature « Vous n'êtes pas tenu de répondre à un message en dehors de vos horaires de travail habituels », etc., etc.
Tout à fait, mais alors, il y a quand même encore une limite, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de management derrière. Aujourd'hui, on est sur un culte de l'immédiateté et la réactivité, la capacité à traiter les tâches très rapidement, c'est bien vu des managers, c'est bien vu de la hiérarchie. Et un salarié qui va être sur un projet important, qui va être peut-être en concurrence pour une promotion, pour une prime, il va oublier le droit à la déconnexion. Et s'il faut qu'il surtravaille, il va surtravailler. Donc, on a ces deux phénomènes qui sont un peu contradictoires et j'ai bien peur que ce soit le deuxième qui soit en train de l'emporter pour le moment.
Les expériences les plus poussées sur la déconnexion, c'est l'Europe du Nord aujourd'hui ?
Alors, moi j'ai quelques initiatives ici. Volkswagen en Allemagne qui a mis en place dès 2012 un accord sur le blocage de l'accès aux smartphones.
Le soir, après les horaires de travail.
Tout à fait. Il y a même eu des journées sans mail chez Canon. Et puis, il y a d'autres expérimentations, par exemple chez Orange en France. Mais c'est vrai que je serais très curieux de savoir ce qui se passe dans ces entreprises et si ce droit à la déconnexion, il est bien respecté. Mais c'est peut-être simplement une question d'attitude des salariés qui, vis-à-vis de leur hiérarchie, pourraient être bien vus.
Il y a des réunions sans smartphone maintenant, parce que c'est vrai que quand les gens s'envoient des messages alors qu'ils sont dans la même réunion, on peut quand même se poser la question. Ça existe. Hein. Vous nous appelez au 33 184 22 71 71. Les GAFA dans l'histoire, les géants du numérique. Alors, quelles sont les prises de conscience? Où est-ce qu'on en est? Il y a des suppressions de boutons like à l'horizon, déjà réelles ou pas, Dominique Boulier?
Oui, je pense qu'il y a la prise de conscience que l'effet d'amplification des systèmes qu'ils ont mis en place produit en réalité précisément cette propagation massive de tout et n'importe quoi qui détruit la valeur même de ces échanges-là. Donc il y a, c'est chez Twitter comme chez Facebook aussi, mais beaucoup moins chez Facebook je pense, un certain nombre de réactions pour essayer de réduire la visibilité notamment des compteurs que l'on a. Parce que les compteurs, c'est quelque chose qui vous stimule en permanence, donc on réduit ça. Mais le problème, on voit bien qu'il y a une contradiction avec le modèle économique de ces entreprises. Donc on voit bien que ça ne va pas aller forcément très loin. C'est pour ça qu'il est plus intéressant aussi de faire appel justement à tout un tas d'applications qui, parce que je suis très conscient que l'important, c'est l'autocontrôle dans cette affaire, ce que disait notre auditeur à propos de la méditation. En même temps, beaucoup de gens vont avoir besoin de béquilles, ils ont besoin d'appui et d'aide.
Donc
pour
un
cela.
Nouveau business pour aider à lutter contre l'hyperconnexion.
Complètement.
Avec de nouveaux outils numériques.
Complètement. C'est un peu, vous savez que sur les téléphones portables, par exemple, vous avez maintenant la possibilité de mesurer le temps de toutes les applications, vous pouvez l'afficher. On pourrait imaginer qu'on puisse aller au-delà, c'est-à-dire que c'est pas seulement le temps, vous pourriez définir des seuils avec des alertes, et puis après, petit à petit, vous pourriez aller plus finement en disant, moi c'est ce que je propose, effectivement, qu'on ait une forme de limitation de vitesse, parce que c'est le rythme qui compte pour moi. C'est pas forcément seulement le temps qu'on y passe, mais c'est aussi le rythme. Et donc une limitation de vitesse qui fait que ben, vous n'aurez droit à un terme où au début vous ne vous donnez le droit, et puis peut-être qu'on peut implémenter ça collectivement dans une entreprise ou dans un collectif ou au niveau social en général, de dire vous n'aurez plus le droit qu'à un retweet par jour. Alors là, vous voyez, je prends cet exemple-là. Vous aurez du coup à réfléchir en disant, mais ça vaut vraiment le coup que je le retweete celui-là? Et donc, vous re-hiérarchisez l'information, vous prenez une vraie décision. Ah, vous me direz, non, c'est inadmissible, c'est une atteinte à la liberté, etc. Ben ouais, oui, mais enfin, la limitation de vitesse, on a fait comme ça. Voilà,
encore faut-il routes. Que cette limitation soit vécue collectivement.
Voilà.
Laurence Allard, oui, très, il nous reste vraiment très très peu de temps. Laurence Allard, je voulais que vous nous disiez surtout comment vous voyez le lien entre l'écologie et la déconnexion. On sait que l'hyperconnexion est très consommatrice d'énergie. Il y a un problème aussi de stockage des données. Est-ce que du coup, avec le changement climatique, la déconnexion va s'imposer d'elle-même ou pas, Laurence Allard, en quelques, vraiment,
oui,
en deux
oui,
minutes.
Oui, très vite. Oui, parce que là, on a justement abordé la question des régulations individuelles et collectives par ce droit à la déconnexion, mais il y a aussi une déconnexion qui risque d'être subie, totalement involontaire, puisqu'elle sera d'ordre systémique avec, justement, les effets du réchauffement climatique et du dérèglement climatique en général. Et donc, il y a des rapports qui mettent en avant notamment que pour les infrastructures d'Internet, le réchauffement climatique et des températures et l'élévation du niveau de l'océan est en danger.
Laurence Allard, on ne vous entend plus du tout, je suis désolée, il faudrait absolument
allô,
vous bouger un petit peu.
Plus.
Oui, c'est bon, allez-y.
Oui, donc il y a ces rapports qui montrent évidemment que le réchauffement des températures et l'élévation du niveau des océans qui en résulte va mettre en danger les câbles du réseau Internet et notamment aussi les centres de données qui vont être touchés. Et puis spécifiquement par rapport au numérique, il y a la question des composants qui supposent des terres rares, comme on dit, et puis du sable, dont là encore, cet extractivisme va finir par toucher à sa fin. Et puis la question même de l'énergie qui se pose, puisque c'est pas tant qu'on a moins d'énergie, de ressources fossiles, que ça demande de plus en plus d'énergie que d'extraire ces ressources aussi. Donc, à terme, en fait, et c'est bien le rapport du GIEC, etc., qui le montre, à terme, de toute façon, le numérique, avec ses usages aujourd'hui qui sont de plus en plus énergivores et impactants avec la transformation d'Internet en grosse télé, ce que j'appelle la télification d'Internet, c'est-à-dire le développement de Netflix, etc., qui émettent, d'après le rapport du chiffre projet, l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent du Chili. Donc c'est extrêmement conséquent en termes d'impact environnemental. Donc tous ces nouveaux usages, toutes ces données de plus en plus gigantesques qui sont émises par des objets de plus en plus connectés, pas seulement des humains qui se connectaient, nous entraînent plutôt dans un risque qui n'est pas tant personnel ou social que tout simplement un risque terrestre, un risque global et qui va finalement conduire peut-être à une déconnexion que là on ne pourra absolument pas maîtriser ni réguler. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser justement quand on s'autorégule.
Et converger donc avec cette prise de conscience dont on a bien parlé pendant toute l'émission, prise de conscience personnelle que tout cela va trop loin. Merci beaucoup à vous, Laurence Allard. Je voulais juste, avant de terminer, lire le message de Suzanne à Montreuil qui dit elle est retraitée, elle a du recul, il faudrait créer un cours de fonctionnement humain. On permettrait aux gens de s'observer ici et maintenant et ça permettrait aussi d'évaluer leur état pour mieux gérer le contrôle d'eux-mêmes. Voilà. Et bien, en tout cas, merci à vous tous, Thibault Liorade. Tous les articles dont on a parlé sont à retrouver sur le site The Conversation.
Tout à fait. Il y aura une édition spéciale le 27 décembre sur la déconnexion.
Et ben voilà, en pleine vacances scolaires et des fêtes de fin d'année, c'est le bon moment pour prendre les bonnes résolutions. Merci à vous, Dominique Boulier, Ager Kefi, Laurence Allard. Et merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Tous les ouvrages aussi dont on a parlé sont à retrouver sur notre page internet 7 milliards de voisins RFI.fr. Vous déconnecterez ensuite. Et puis, bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque vendredi. Merci à vous tous, les voisins et les voisines. C'est vous qui faites l'émission chaque jour.
Ce samedi sur RFI.